La suite du Club des idées d'Europe Soir avec les archives, comme chaque soir à cette heure-ci, 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Jean-Jacques Herry.
Bonsoir.
On part avec vous le 15 février 1974, il y a donc 47 ans, le dissident russe Alexandre Solzhenitsyn, arrivé en Suisse, à Zurich, après son expulsion de l'URSS la veille. Retour donc sur cet épisode marquant en pleine guerre froide.
Lorsque la silhouette reconnaissable à sa longue barbe descend du train ce jour-là en gare de Zurich, c'est sous les applaudissements et les hurrahs sur les quais. La foule est nombreuse pour accueillir Alexandre Isaïevitch Solzhenitsyn. À 55 ans, le dissident russe le plus célèbre, prix Nobel de littérature 4 ans plus tôt, arrêté puis tout juste expulsé du RSS, est à nouveau libre, mais désormais en exil. Il vient de perdre sa nationalité, sa femme et ses enfants. La veille, en Allemagne, il est apparu sonné après sa descente de l'avion.
Mes amis, dit-il, comprenez-moi. Je suis très fatigué, je me fais du souci pour ma famille. Je dois téléphoner à Moscou. Ce matin encore, j'étais en prison. Comprenez ma situation. Il m'est impossible de répondre à vos questions et d'ironiser. J'en ai déjà d'ailleurs trop dit dans ma patrie.
Si Alexandre Solzhenitsyn en est là, c'est à cause de ses mots et de son dernier livre, L'archipel du Goulag. L'ouvrage a été écrit dans les années 50 et 60 et vient d'être publié. L'auteur y raconte ce qui ne doit pas se raconter, la répression politique en Union soviétique, appuyée par les témoignages de ceux que l'on appelle les ZEC, les rescapés des camps de travail.
Oui, écrire ça à ce moment-là et le révéler aux yeux du monde entier, c'était impensable.
Oui, et pour contourner la censure, les minuscules feuilles de papier du manuscrit ont dû être enterrées une à une dans des jardins en Russie. En parallèle, une copie du livre est clandestinement transportée en Europe occidentale pour y être imprimée, à Paris d'ailleurs. Mais effectivement, critiquer Staline et ses crimes dans l'URSS de 1973, c'est encore trop tôt. Cette fois-ci, le prix Nobel est allé trop loin. Sa haute trahison lui vaut l'expulsion, explique alors son éditeur Nikita Strouvier.
Solzhenitsyn s'était mis au-dessus des lois. Il avait conquis pour lui-même une liberté d'action quasi totale. Et évidemment, pour l'autorité soviétique, ça ne pouvait pas durer. Parce que ça avait une valeur d'exemple, ça galvanisait les énergies à l'intérieur de la Russie elle-même, mais également dans les démocraties populaires. Solzhenitsyn, c'était l'intouchable. C'est en ce sens peut-être que le gouvernement soviétique a marqué un point. Je pense que le gouvernement soviétique a fait là un calcul à long terme, quitte à souffrir un peu dans les premiers temps, à souffrir des attaques très violentes même, mais il compte sur le temps et sur la faculté d'oubli de l'occidental.
En pleine guerre froide, les pays occidentaux accueillent donc le paria russe.
Ouais, c'est une vie d'exilé hein, qui commence. Le Guernesey de Solzhenitsyn, c'est d'abord Zurich pendant 2 ans, où sa femme, ses 4 enfants et sa belle-mère ont finalement pu le rejoindre. C'est là que lui rend visite le journaliste du Point, Olivier Chervillon, en 1975. Il en parle sur l'antenne d'Europe 1.
Moi, j'ai trouvé un homme qui avait d'abord rajeuni, probablement parce que le climat de Zurich lui réussit, et puis un homme plein de verve et de truculence, mais surtout de gaieté. De temps en temps, l'interview était interrompue par l'irruption des bébés Solzhenitsyn, qui sont des petits-enfants blonds de 3 à 6 ans, qui bavardent russes à toute vitesse et qui, de temps en temps, commençaient à faire des danses cosaques sur le plancher. Il n'est pas simplement un défenseur héroïque des droits de l'homme, il est quelque chose de plus que ça. Il est tout ça en même temps et quelque chose de plus. C'est peut-être une sorte de prophète.
Prophète dans son pays, Solzhenitsyn ne le sera pas avant 1994, date à laquelle il est enfin autorisé à retourner sur son sol natal. Après 20 ans à l'étranger, en Suisse donc d'abord, puis aux États-Unis, il peut enfin retrouver sa nationalité. Lorsqu'il meurt à 89 ans dans la nuit du 3 au 4 août 2008, comme dans un retournement de l'histoire, les images de ses funérailles sont largement diffusées à la télévision russe et l'on entend même Vladimir Poutine, l'ancien officier du KGB, rendre un hommage appuyé à l'ancien dissident. Il a grandement aidé la société à s'immuniser contre toute forme de tyrannie, déclare-t-il alors.
Merci Jean-Jacques pour ces archives et ce récit. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.